C'est avec une grande joie que mon épouse et moi-même nous sommes là ce matin. Comme d'habitude, j'allais dire attonnant, mais cette fois avec une population plus conséquente. Hein. Alors, bien évidemment, j'ai les salutations de l'église de Genève à vous apporter tout à nouveau. J'en profite aussi pour saluer Bienne, hein, qui m'a reçu une fois sous la neige, un peu délicate pour moi, mais ça s'était fort bien passé en ce qui me concerne en tout cas. Et je me dois également d'ailleurs de saluer, il m'a dit, de l'église de Tonon aussi, puis bien, puisqu'il savait que vous étiez là, une personne qui s'appelle Paul Appéré, qui vous donne et qui vous transmet, pour ceux qui le connaissent bien sûr, toutes ses salutations. J'ai eu l'occasion de le voir la semaine dernière, c'est lui qui prêchait à Nîmes, et c'était tout un plaisir de le voir, mais il m'a dit, je ne peux pas vous donner les salutations de l'église de Paris, parce qu'il n'est plus pasteur de Paris. Donc ça lui faisait tout drôle de transmettre ses salutations en son nom propre, si je puis dire. Alors, bien évidemment, en ce dimanche qui précède Pâques, je ne voudrais pas que le contexte soit le prétexte, mais j'aimerais quand même que nous nous rappelions un petit peu ce que nous aimons parfois à chanter d'ailleurs, c'est l'histoire de Jésus. Et nous redire un petit peu de cette histoire. En effet, si le Nouveau Testament consacre 4 livres à parler de sa vie, c'est qu'il est nécessaire, je pense, que nous en soyons bien imprégnés. Cette histoire nous dit et nous redit à nous qui sommes parfois bien oublieux tout l'amour que Jésus a pour nous. Et j'ai choisi délibérément de lire une partie de cette histoire raconté par celui qui connaissait le mieux le tendre cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux parler bien sûr de l'apôtre Jean, vous l'aurez deviné. C'est pourquoi je vous propose d'ouvrir vos Bibles et de lire dans l'évangile de Jean. Nous prendrons au chapitre 11, nous ferons une assez longue lecture sur laquelle nous nous arrêterons par la suite. À partir du chapitre 11, donc nous prendrons à partir du verset 24 jusqu'au verset 19 du chapitre 12. Jésus donc ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs, mais il partit de là pour la région proche du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Il y demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup des gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple, « Qu'en pensez-vous? Ne viendra-t-il pas du tout à la fête ?» Or, les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres pour que si quelqu'un savait où il était, il les en informe, afin qu'on l'arrête. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Là, on donna un dîner pour lui, Marthe servait, et Lazare était l'un de ceux qui étaient à table avec lui. Marie donc prit une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, en répandit sur les pieds de Jésus, et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, celui qui allait le livrer, dit alors, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non parce qu'il avait le souci des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laissez-la garder cela pour le jour de mon ensevelissement. » Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. La grande foule des Juifs sut qu'il était là. Ils vinrent, non pas seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'en allaient à cause de lui et mettaient leur foi en Jésus. Le lendemain, La grande foule qui était venue pour la fête entendit dire que Jésus venait à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmier et sortirent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus. Selon ce qui est écrit, « N'aie pas peur, fille de Sion, ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela tout d'abord. Mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que cela était écrit à son sujet et qu'ils avaient fait cela pour lui. La foule qui était avec lui quand il avait appelé Lazare du tombeau pour le réveiller d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'est pourquoi la foule vint au-devant de lui. Elle avait entendu dire qu'il avait produit ce signe. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous n'y pouvez rien, le monde s'en est allé à sa suite. » Avant de revenir à ce passage que nous venons de lire, me paraît bon de rappeler quelque peu quelques caractéristiques de l'auteur, de l'apôtre Jean. En parlant de l'évangile de Jean, Luther disait que c'était le seul véritable et tendre évangile. En effet, Jean ne prétend pas nous exposer tout ce qu'a fait Jésus, et encore moins les faits chronologiques, bien que parfois il essaye d'en donner. Lorsqu'il rédigea son évangile, beaucoup des faits qui étaient relatifs à la vie de Jésus étaient connus et circulaient déjà dans les communautés du premier siècle, à travers les synoptiques, que sont les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. L'apôtre Jean va apporter autre chose. L'apôtre Jean, de nature, lui, il avait une ardente affection et une intuition vivace qui le poussèrent à avoir une communion très étroite avec son Seigneur. Il reçoit la vérité et par intuition, il y répond immédiatement par la foi. À tel point que, d'ailleurs absolument sûr de la victoire, il peut affirmer « Celui qui est né de Dieu ne pèche point. » Cette attitude est quelque peu contraire parfois à celle de Pierre, dont le pragmatisme l'empêche de réceptionner les choses de Dieu avec tendresse. Néanmoins, c'est bien à Pierre que Jésus confia de démarrer son Église. Quant à l'apôtre Paul, il avait lui une habileté, une vivacité intellectuelle telle qu'il pouvait débattre avec n'importe quel païen et avec n'importe quel rabbiniste juif. Il est probable que Jean n'aurait pas pu écrire l'épître aux Galates ou la lettre aux Romains. Mais par contre, c'est lui qui fut chargé de mettre la dernière main au développement de l'Église primitive du premier siècle. Et il le fait en parlant du Christ dans son évangile, en parlant du croyant dans sa première lettre, en parlant des églises dans l'Apocalypse. Tous ses écrits pourraient se résumer dans ce qu'il dit lui-même des croyants d'ailleurs, la vie éternelle demeurant en nous. Cette sensibilité de l'apôtre apparaît dans tout son évangile, notamment quand il nous dit lorsque Jésus a dû lutter tellement contre l'incrédulité des Juifs. Et c'est ce qu'il fait dans pratiquement les 12 premiers chapitres de son évangile. Mais Jean ne manque pas non plus de nous montrer combien Jésus prend soin et enseigne tout spécialement ceux qui veulent le suivre, et notamment ses disciples. Il partage dans son évangile ses moments de joie d'être avec le Seigneur. Et le passage que nous venons de lire témoigne d'un de ces moments de joie. En fait, ce passage se situe très peu de temps après la résurrection de Lazare. Et que va-t-il advenir alors? Pour l'apôtre Jean, ce miracle est un point culminant où va s'exacerber l'incrédulité des autorités juives et parallèlement va se réaliser une adhésion à Jésus de la part du peuple. C'est un tournant extrêmement important dans l'histoire de Jésus. En effet, à partir de ce moment-là, il y a cette fois de manière très officielle un édit du Sanhédrin à l'encontre de Jésus. Verset 57. Or, les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres pour que si quelqu'un savait où il était, il les en informe afin qu'on l'arrête. Nous dirions aujourd'hui, peut-être pour mieux comprendre, qu'il y a une sorte de fatwa lancée contre Jésus. Mais cela allait-il empêcher Jésus de vivre normalement? Allait-il s'exiler dans un pays plus clément? Non, au contraire. Verset 1er du chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare. On voit que Jésus, qui était reparti, ce que nous dit le verset 54 précédemment, il était reparti après le miracle de Lazare jusqu'à Éphraïm. Ça fait quand même une trotte, à pied. Et là, il remonte. Dangereusement, de Jérusalem, Jésus se rapproche. Et d'après la plupart des théologiens, d'ailleurs, Jésus serait en train de remonter avec des caravanes de voyageurs vers Jérusalem. Et pour ce faire, il serait passé en rentrant du désert par Jéricho, situé à 5 ou 6 heures de marche, j'allais dire de route, excusez-moi, de Jérusalem. 5-6 heures de marche. J'y reviendrai tout à l'heure, mais il aurait fallu pour cela marcher tout le dimanche, car la veille, qui était jour de sabbat, on ne pouvait pas marcher plus de 20 minutes. L'apôtre mentionne une halte ici, dans son récit, à Béthanie. Béthanie, très proche de Jérusalem. Alors, je ne connais pas bien les quartiers de Thonon, mais si vous prenez le centre ici, puis vous avez Béthanie, peut-être juste à la sortie de Thonon. Hein. C'est vraiment très proche, en distance. Mais Béthanie. Béthanie, pour Jésus, c'était un petit peu son havre de paix. Peut-être avez-vous, dans vos vies, des endroits où vous aimez être tout particulièrement et dans lesquels vous vous sentez. Ah, c'est cool, on passe 15 jours ici. Béthanie, c'était pied. Le pied pour Jésus. Les gens du village étaient tellement fiers du miracle qui avait eu lieu chez eux, qu'ils vont lui faire un festin. Et il est bon de noter que Jésus profite là d'un moment de joie avec ses amis, avec ses disciples, et avec la population de cette bourgade qui lui rend en définitive un hommage public. Il va être honoré alors même qu'il a un édit du Sanhédrin au-dessus de sa tête qui est proscrit contre lui. Nous ne savons pas où le repas eut lieu, mais probablement pas chez Lazare, car il n'est pas mentionné comme étant l'hôte. Mais sa présence seule à Lazare glorifiait déjà le Seigneur. Et bien sûr, dans le récit, nous retrouvons Marthe. Ah, cette Marthe. Même chez les autres, elle ne peut pas s'empêcher de donner un coup de main. Extraordinaire. Quant à Marie, elle va ici exprimer le sentiment qui l'animait au plus haut point pour son Seigneur. En effet, il était de tradition, vous le savez, d'oindre de parfum la tête des convives lorsque c'était un jour de fête. Et là, c'était jour de fête que de recevoir le Seigneur. Tu dresses la table devant moi, tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde, disait David à Dieu dans le psaume 23. Jean, ici, vous me ferez remarquer, ne mentionne pas l'onction de la tête. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la peine, c'était le béaba de la tradition. L'apôtre Jean s'applique, lui, à nous mentionner l'exceptionnel. Il s'attache à nous décrire cet exceptionnel. Marie, en se chargeant de cette tâche, va l'accomplir en allant encore beaucoup plus loin. En effet, elle va répandre beaucoup de parfums sur les pieds de Jésus. Et il va falloir ses longs cheveux pour les sécher. Quelle marque d'adoration de la part de Marie. D'autant plus, si l'on se souvient, que chez les Juifs, n'est-ce pas, il y avait du déshonneur pour une femme à délier ses bandelettes qui retiennent sa chevelure et à se montrer ainsi les cheveux éparpillés. C'est quelque chose d'intolérable, d'impensable. Et Marie témoigne là qu'aucun sacrifice n'est trop coûteux, à la fois pour sa bourse, ni trop méprisable quant à sa propre réputation. Tout ce qu'elle est appartient à Jésus, aussi bien que tout ce qu'elle a. Comment ne pas discerner dans chaque détail de cette histoire une âme qui adore. Et Jésus, en se laissant faire, nous montre bien qu'il a pris aussi du plaisir dans cette soirée. Mais Jean ne s'y attarde pas plus, et il continue sa narration. Et il revient nous parler, versets 9 et 11, de la foule, de Lazare et des grands prêtres. Les pèlerins qui avaient voyagé avec Jésus la veille avaient probablement, en arrivant à Jérusalem, répandu le bruit de son approche. Or, les habitants de Judée, dont il est parlé au verset 54, 55 et 56, nous avons lu, apprenant qu'il était aussi près d'eux, furent impatients de le voir. Ils voulaient voir Jésus. Mais il voulait voir également Lazare, qui était considéré comme un monument vivant de la puissance de Jésus. Certains donc firent le court trajet aussi lors de cette soirée sur Béthanie. Et voilà que Lazare aussi subit à son encontre l'édit du Sanhédrin. Il y eut aussi une fatwa contre Lazare. Les autorités religieuses, prennent de plus en plus peur en voyant que le peuple même de Judée et de Jérusalem commence à prendre cause pour Jésus. Et d'ailleurs, les 3 jours qui vont suivre furent pour les autorités des grands jours d'inquiétude, car là, ils commençaient vraiment à perdre pied. Et ils perdaient pied d'autant plus que, verset 12, le lendemain, la grande foule qui était venue pour la fête entendit dire que Jésus venait à Jérusalem. La multitude, composée de ceux qui étaient là la veille, bien sûr, mais des pèlerins qui continuaient à rejoindre la ville, tous savaient ce qui s'était passé. Et excusez-moi du terme et de l'expression, mais le téléphone arabe pour les Juifs avait merveilleusement fonctionné. Tout le monde était au courant. Quant à Jésus, lui, après avoir vécu la joie de la soirée de Béthanie, le voilà en ce jour que la tradition appelle le jour des rameaux, devant également une très grande joie. Enfin, il va satisfaire aux aspirations qu'avaient eues pour lui, rappelez-vous, ses frères et sa mère lorsqu'ils lui disaient de monter et de se montrer à Jérusalem. Mais nous savons bien que notre Seigneur a tout fait dans son ministère pour éviter ce genre de manifestation. Il avait souvent réfréné cela. Mais là, il va laisser libre essor à l'hommage public qu'on lui prépare. De toute façon, qu'avait-il à perdre? Une fois au moins dans sa vie, ne devait-il pas être reconnu et salué en tant que roi d'Israël? Dans tous les cas, l'heure de sa mort était proche. Celle de son avènement royal avait donc sonné. Alors, bien sûr, la tradition chrétienne fixe l'entrée festive de Jésus le dimanche qui précéda la Passion. Mais l'explication la plus probable est tout autre. En effet, 3 des évangélistes n'en parlent pas. Seul Marc nous dit, verset 11 du chapitre 11, « Il entra à Jérusalem dans le temple quand il eut tout regardé, Comme il était déjà tard, il sortit vers Béthanie avec les 12. Après son long périple, donc, du dimanche, avec les caravanes, il rentre dans le temple, il voit qu'il n'y a plus personne, il s'en va à Béthanie. Puis seulement le lendemain, le lundi donc, c'est là que la grande foule se constitue. Et cette foule, elle comprend une grande partie des pèlerins qui venaient à la fête, qui avaient appris par ceux qui s'étaient rendus la veille à Béthanie que Jésus se trouvait là et allait venir de Jérusalem. Alors il y avait ceux de Jérusalem qui allaient vers Béthanie, et il y avait ceux, les amis de Jésus et ses disciples, et plein de gens qui venaient de Béthanie vers Jérusalem en même temps que lui. Tout cela a constitué un énorme cortège. Et il trouva ainsi sur sa route de plus en plus de gens joyeux à l'idée de le voir. Cette ovation qu'il eut et qu'il reçut fut dirigée par un souffle de joie céleste qui passa sur cette multitude. Leur allégresse, leur espérance éclatèrent dans des chants et des symboles significatifs. Luc le dit, verset 37 du chapitre 19, « Et comme il approchait de la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, transportée de joie, se mit à louer Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. » Jean, lui, il veut nous faire comprendre quel était, entre tous ces miracles, celui qui jouait le plus grand rôle dans l'enthousiasme de la foule et qui avait produit cet effet si général, tant sur ceux qui accompagnaient Jésus que sur ceux qui venaient à sa rencontre. C'était bien évidemment le tout récent miracle de la résurrection de Lazare. Alors, nous dit le verset 13, les gens prirent des branches de palmier et sortirent au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Ah, le palmier, quel bel arbre. Alors je dis ça à des hauts savoyards qui sont fans du sapin, mais personnellement j'ai passé mon enfance sous les palmiers et c'est le pied. Ce palmier, j'y suis beaucoup plus sensible qu'au sapin, c'est comme ça. Mais le palmier ici était synonyme de beauté permanente. C'est l'emblème de la force, de la joie, du salut. Et déjà dans l'institution de la fête du tabernacle, Lévitique 23, verset 40, il est dit « Vous prendrez des branches de palmier et vous vous réjouirez pendant 7 jours devant l'Éternel. » Les processions autour de l'autel des holocaustes se faisaient en portant des branches de palmier. Et que dire? Que dire de ce qui nous attend? Jean, toujours lui, mais dans l'Apocalypse cette fois, chapitre 7, versets 9 et 10. Après cela, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des branches de palmiers à la main, et ils criaient « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Nous aussi, un jour, nous aurons des branches de palmiers à la main. Amen. Le peuple de Jérusalem, lui, il avait la matière première sur place et il a su l'utiliser. Or en plus, ce jour-là, tout paraît s'être fait de manière très spontanée, n'est-ce pas? Et il y a eu des cris de la multitude, employant des termes tels que « fils de David » ou « roi d'Israël » qui ne laissent aucun doute sur le sens de cette manifestation. C'était bien le Messie que le peuple entendait saluer en la personne de Jésus. Les acclamations rapportées par l'apôtre Jean sont tirées du psaume 68, versets 25 et 26, qui était en fait un cantique composé au départ pour l'inauguration du temple. Et diverses citations rabbiniques prouvent que ce psaume était considéré comme messianique. Et chaque Israélite savait par cœur ces paroles. Elles étaient notamment chantées à la fête des tabernacles, à la Pâque et pendant le repas pascal du grand Hallel. Hosanna veut dire « Sauve, je te prie ». C'était là la prière adressée par le peuple à son roi, à son Messie. C'était un peu toute proportion gardée, comme le God Save the Queen de nos amis britanniques. Bien sûr, toute cette foule ne criait pas avec les mêmes intentions. D'où les acclamations différentes qui nous sont rapportées par les autres évangélistes. Jean, me semble-t-il, va reconnaître, Jésus va reconnaître dans l'élan de cette foule qui accourt vers lui, avec ses acclamations triomphales, Jésus va reconnaître là comme un signal divin. En effet, les psaumes chantés lui font comprendre en définitive que c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'il faut se réjouir en elle. Du coup, que fait Jésus ? Versets 14 et 15. Il trouve un ânon, il s'assoit dessus, tel qu'il est écrit, « N'aie pas peur, fille de Sion, ton roi vient assis sur le petit d'une ânesse. » Jésus va alors répondre par également un signe messianique. Il accepte cet hommage. Donc, en acceptant cet hommage, il faut qu'il se différencie de la foule et dans la foule. Et c'est pourquoi il va se mettre en scène de la manière la plus appropriée, la plus humble qui soit pour sa royauté. Zacharie 9, verset 9 nous dit « Sois transporté d'allégresse, Sion la belle. Lance des acclamations, Jérusalem la belle. Il est là, ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux, il est pauvre. Et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » 400 ans auparavant, Zacharie indique bien le sens qu'il donne au symbole d'humilité ou de pauvreté, de justice et de salut. L'ânon représente pour lui l'humilité du Messie. Il faut quand même savoir que, même dans les temps anciens, l'âne n'était pas en Israël une monture méprisée, loin de là. Mais il avait été, par contre, remplacé rapidement par le mulet et le cheval. Et si vous remarquez bien dans vos Bibles, Jean ne cite pas exactement la prophétie de Zacharie. Au verset 15, Jean, qui est toujours sensible à celui qui est proche du cœur du peuple, il dit à son peuple, « Ne crains pas, ou n'ayez pas peur, selon les traductions que vous aurez. » Alors que Zacharie avait dit, « Réjouis-toi. » Pourquoi dit-il cela ? À l'époque de Jean, le peuple avait l'habitude de voir des rois, ou leurs représentants, en tout cas sur des chevaux, et ils avaient peur, en voyant notamment les Romains. Or là, c'est un roi qui vient sur un âne. C'est pas pareil. Humble. Ne crains pas, un roi qui vient de cette manière ne peut pas être un tyran. C'est pas possible. Et tout le ministère de Jésus en Israël a été l'accomplissement de cette prophétie. Même s'il ne l'avait pas accompli à la lettre, elle l'aurait été par tout ce qui a pu précéder. Or, en l'accomplissant à la lettre, les disciples n'ont rien compris. Et ce n'est que plus tard, après l'ascension, et éclairés par l'Esprit, qu'ils discernèrent la portée de cet événement. Quand Jésus fut glorifié après sa mort, alors ils comprirent vraiment. Jean ne nous en dit pas plus sur l'entrée de Jésus à Jérusalem. Par contre, il met bien en relation le fait que la résurrection de Lazare a grandement participé au triomphe des rameaux, mais aussi que cette résurrection de Lazare a définitivement scellé la condamnation de Jésus. Nous voyons cela, versets 17 à 19. Il y avait ceux qui avaient vu le miracle, et ceux à qui on l'a raconté et qui y croyaient. Et la foule qui a cru a tellement grandi que les pharisiens eurent peur et devinrent dépités, au point de dire, verset 19, « Vous voyez que vous n'y pouvez rien, le monde, c'est-à-dire tout ce peuple étranger et indigène, s'en est allé à sa suite. » Jusqu'à présent, les demi-mesures prises par les pharisiens n'ont pas suffi. D'où le fait qu'ils ne vont pas tarder à employer le moyen suprême, que Caïphe d'ailleurs leur avait conseillé, verset 50 du chapitre 11. « Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne soit pas toute perdue. » Voilà, voilà comment Jean nous montre combien la haine et l'incrédulité des Juifs fut à l'origine de la mort de notre Sauveur. Pour conclure, je dirais, très rapidement, que le rappel, en fait, de ces derniers jours de vie de notre Seigneur nous montre qu'il a eu et qu'il a su recevoir de la joie à partager des moments avec ses amis, avec ses disciples. Il a même partagé un petit peu de royauté terrestre, si je puis dire. Alors, que ce temps de réflexion pascale, vers lequel nous allons maintenant encore plus, nous permette vraiment de nous souvenir de tout ce qu'il a dit à ses disciples. Dans ces 3 jours qui ont précédé sa mort, tout ce qu'il a pu rappeler à ses disciples, en les enseignant. Et je ne peux que vous exhorter dans cette semaine qui vient à relire pour vous-même et à méditer les chapitres 14 à 17 de cet évangile de Jean. Tous ces encouragements que le Seigneur a donnés avant Gethsémané. Que nos cœurs soient remplis par ces encouragements et que le Seigneur bénisse en nous sa parole. Amen. Je vous propose quelques secondes de méditation. Merci Seigneur parce que ce matin encore tu nous rappelles au travers de ta vie combien tu es celui qui connaît parfaitement nos émotions, qui connaît nos vies, et tu es celui qui a su partager tant ces moments de joie que ces moments de douleur que tu vas traverser, et tu as su le faire pour chacun de nous. Quelle grâce tu nous fais, Père Céleste, de pouvoir ensemble nous remémorer tout cela, de pouvoir aussi, ensemble du fond de nos cœurs, te redire merci, merci pour tant d'amour, tant de fidélité, tant de passion. Merci Seigneur parce que tu veux toi-même encore, en cette semaine particulière dans laquelle nous voulons nous souvenir de tout ce trajet que tu as vécu ici-bas, particulièrement aussi prendre du temps, peut-être, pour nous remémorer cette histoire merveilleuse du salut pour tous. Merci notre Dieu, notre Père, pour ta parole qui est pleine de vie, qu'elle continue à nous nourrir comme elle le fait jusqu'à ce jour par la puissance de ton esprit. Garde-nous dans ta grâce, dans ta paix, et que la paix du cœur puisse vraiment être manifeste en nous et autour de nous. Seigneur Jésus, bénis ton Église, où qu'elle soit, en ce jour qui est le tien, veuille la renouveler et la fortifier dans l'attente de ton retour qui ne saurait tarder. Garde-nous dans ta paix, dans le précieux nom de Christ. Amen.